Radio Capi, grand témoin.
Religieuse congolaise lauréate 2013 de la prestigieuse distinction en scène du HCR, la révérende sœur Angélique Namaïka est l'invitée de grand témoin. Bonjour ma sœur.
Bonjour journaliste.
Comment vous allez ma sœur?
Je me porte bien.
Nous allons commencer par votre enfance. Ma sœur, vous êtes née où?
Je suis née à Kembisa, dans le Bazouélé, dans la province orientale.
En quelle année? C'est vrai, on dit souvent qu'on ne demande pas l'âge d'une femme. C'est en quelle année ma sœur?
Pour moi ça ne pose pas de problème, j'étais née le 11 septembre 1967.
Comment on dit bonjour dans votre langue maternelle?
Mwada.
Mwada. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de vous suivre en ce moment à Dungu où vous œuvrez particulièrement. Est-ce que vous pouvez les saluer?
Ah, je peux dire Mwada pour ceux qui comprennent le Kibarambo. Là à Dungu je travaille, je vais dire Sene au...
Voilà, j'espère qu'ils vous ont compris. Alors, ma sœur, vous naissez en 1967 à Kembisa, c'est en province orientale. Parlez-nous de votre enfance. Vous étiez quel genre d'enfant?
Je vais donner le nom de mes parents, parce que...
Oui, allez-y, c'est toujours important.
Je suis née de père qui s'appelle Kango Adrien, de la maman qui s'appelle Béatrice Nazigumba. Tous deux sont en vie et ils sont mariés religieusement.
Vous êtes combien dans la famille?
Nous étions 6. 3 étaient morts et nous sommes restés 3. 2 filles et 1 garçon.
Dans votre enfance, vous étiez turbulente. Aujourd'hui, vous êtes une religieuse. On sent vraiment beaucoup de sérieux. Mais quand vous étiez enfant, vous étiez quel genre d'enfant?
C'est que le paradis, toujours, moi, je n'étais pas turbulente. Parce que moi, je n'aime pas des choses un peu violentes. J'étais un peu calme là. J'étais bien aimée par mes parents. Et ce qui avait poussé aussi mes frères de m'aimer. Parce que j'avais beaucoup souffert dans mon enfance. Je pense que c'était à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à 4 ans. J'avais beaucoup souffert. C'est pourquoi j'étais un peu pas timide. J'étais bien aimée par mes parents.
Alors quand vous dites que vous avez beaucoup souffert pour un enfant, c'était quoi? Vous étiez malade? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, j'étais malade tel que maman m'a dit. J'étais gravement malade pendant longtemps et j'avais beaucoup maigri. C'est pourquoi on m'avait attribué l'appellation la écureuil. Parce que j'étais trop maigre. Ah, on m'appelait toujours...
Vous sentez très fragile.
Oui, j'étais née aussi prématurée. Je n'avais pas totalisé la période normale pour...
Mois.
Oui. Je pense que c'est à cause de cela que j'étais malade.
Écureuil, santé fragile, aimé des parents, pas très timide, pas très, je dirais, très mouvementé, permettez-moi l'expression. Où est-ce que vous avez fait vos études primaires?
Oui, première année primaire, j'avais fait ça à Mazoubou, presque à 2 kilomètres de la maison. Je partais toujours très tôt matin pour arriver à temps. Arrivé à deuxième année primaire, l'école était très loin de notre maison. De notre village. Il fallait que je puisse quitter les parents à deuxième année secondaire pour aller,
primaire,
pour aller habiter avec ma grand-mère, pour faire deuxième année jusqu'à sixième primaire à Mangoro.
Pendant que vous étudiez, quels sont les amis d'enfance dont vous avez retenu les souvenirs jusqu'à aujourd'hui?
J'ignore un peu les noms. Il y a une...
Voilà, donnez les noms qui vous reviennent. Les rares noms, c'est très compliqué pour nous tous, mais donnez-nous quand même les rares noms qui vous reviennent.
Là, je vois encore Benando, avec qui on était toujours dans notre village, on sortait pour aller à l'école. Et Nabande, elle est là, on était vraiment avec elle presque jusqu'au niveau de sixième primaire. Au moins les deux noms que je retiens encore, oui, de la France.
Oui, il faut dire que ce sont des souvenirs très lointains. Ma sœur, est-ce qu'on peut dire, pour clôturer un peu l'aspect lié à l'enfance, que vous avez passé une enfance douce, une enfance joyeuse?
Oui, je peux dire que c'était joyeuse. Surtout avec ma grand-mère là et mon petit frère qui s'appelait Yenga. Ferdinand. On était avec lui tout ça parce que c'est avec lui qu'on était parti à Mangoro pour continuer les études primaires là. Chaque samedi, on partait à la maison pour chercher à manger. Alors, de notre capacité, on ne pouvait transporter que des bananes, une boîte de 1000 kilos d'huile, oui. Chaque samedi, on partait à la maison pour bien manger là-bas le dimanche et après le soir encore, on rentrait. Une chose que je retiens encore, pendant qu'on rentrait, on avait traîné beaucoup à la maison parce que la nourriture n'était pas cuite à temps. Et on avait quitté la maison un peu tard. La nuit, la police nous avait arrêtés parce qu'à ce moment-là, on avait défendu aux affaires de se promener à partir de 19h. Et nous étions là avec notre bagage sur la tête, on nous avait arrêtés. On dit, vous n'allez pas continuer parce que vous promenez la nuit. Nous avons dit, non, nous sommes des élèves, ayez pitié de nous. Et ils nous ont accompagnés dans une chapelle comme ça. On nous a dit de dormir là-bas pour éviter les dangers dans la nuit. Et demain matin, on pouvait continuer. Ils n'ont pas fait du mal pour nous. Et voilà ce qui me reste encore dans
comme
la pensée.
Parmi les souvenirs, vous terminez les études primaires et après le secondaire, qu'est-ce que vous faites?
Quand j'avais terminé l'école primaire, et le secondaire, imaginez, si seulement la deuxième, qui est très loin déjà de votre village, deuxième primaire, imaginez la secondaire.
Le secondaire.
Oui. Et on s'est déplacé encore plus loin. Il fallait que je puisse quitter là-bas. Et j'étais l'unique parmi notre génération qui avait étudié à cette époque-là. Parce que la deuxième était ouverte à mon année même. C'est moi qui avais ouvert la deuxième.
Inauguré,
si on peut dire cela. Oui. Et j'étais la seule dans cette école-là primaire pour partir à Amadi pour commencer les études là-bas secondaires en 1985.
Après les études secondaires, les études supérieures, qu'est-ce que vous faites?
Quand j'avais fini l'école secondaire à Poco, je suis allée directement à la maison de formation pour faire le noviciat à Dorima. Dès là, alors, j'avais terminé la formation religieuse et je suis devenue religieuse en 1992. Et après, en 1997, je suis venue ici à Kinshasa pour faire la spiritualité africaine. C'est ici que j'avais fait le cycle de graduat. J'ai terminé en 2000 et après, je suis rentrée.
Alors, ma sœur, avant qu'on évolue, encore un souvenir par rapport à vos études secondaires. Est-ce qu'il y a un souvenir que vous avez gardé?
Oui. Ce que j'ai gardé au niveau de l'école secondaire, c'est quand nous étions à Amadi, ce qui me reste toujours aujourd'hui à la tête. Il y avait une femme qui était venue pour nous enseigner l'éducation à la vie. Et je l'avais écoutée avec beaucoup d'intérêt. Elle avait dit que nous devons mettre beaucoup d'importance pour notre vie scolaire, parce que ça va nous aider plus tard. Et j'ai gardé vraiment l'image de cette femme-là. Jusqu'aujourd'hui, quand je regarde encore, je vois qu'il n'y a pas de telle formation dans des écoles. Elle était venue presque, je pense, ici à Kinshasa. Cela m'avait beaucoup touché pour voir une femme qui témoigne des études. Et moi, j'ai dit non, je ne vais pas cesser mes études. Je vais faire comme cette maman a dit. Et une autre encore, c'était notre professeur. Il testait, qu'est-ce que vous allez faire dans la vie? Pendant les cours, il a cessé les cours, il a commencé à nous demander. Que toi, qu'est-ce que tu penses faire dans la vie? Chacun a donné, alors, et il a demandé aux autres qui avaient choisi le mariage. Ils ont dit, il a dit, quel homme que vous voulez épouser?
Quel genre d'homme?
Quel genre d'homme que vous voulez épouser? On a commencé à décrire un homme travaillé, un homme intelligent. Ceux qui avaient choisi, on a essayé un peu de lire pour voir, pour ne pas être préparé par ceux. Pour amener le malheur à la maison. Alors, ça, c'était bien. Moi, j'ai trouvé que c'était bien pour aider les enfants à faire les choix, pour ne pas tomber dans le malheur dans le foyer. Et on a demandé aussi les garçons. Ils ont parlé aussi des mêmes choses. Et c'est ce qui m'est resté comme souvenir d'enfance à l'école secondaire.
Le grand témoin.
Religieuse congolaise, lauréate 2013 de la prestigieuse distinction Nansen du HCR, la révérende sœur Angélique Namaïka est l'invitée de Grand Témoin. Alors, qu'est-ce qui vous pousse dans la vie religieuse? On sait que quand souvent on est à la campagne, au village, pour les parents, les attentes, c'est que l'on se marie, qu'on ait des enfants. Mais qu'est-ce qui vous pousse, vous, dans la vie religieuse?
Pour moi, ça vient de Dieu. Parce que moi-même, quand je commence à raisonner sur le parcours que j'ai fait pour arriver aujourd'hui ici, d'abord, une famille pas tellement aisée, là où on devait travailler dur pour pouvoir payer les écoles. Là, d'ailleurs, les parents, pour eux, l'importance des études, ça ne compte presque pas. Je me vois aujourd'hui tout ça. Le Seigneur m'a fait passer dans cela pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Ça m'étonne. Je ne sais pas comment je peux vous répondre pour savoir exactement qu'est-ce qui m'a poussé pour arriver aujourd'hui à ce niveau ici de terminer mes études. Parce que chez nous au village, l'idéal c'est le mariage. L'idéal c'est qu'on puisse vous appeler mère. Parce que vous avez les enfants, vous êtes mariés. Vraiment, c'est ça qui est important pour nous au village. Comment le Seigneur a fait à ce que je puisse arriver ici? Je dis seulement toujours que c'est le main de Dieu. Parce que quand j'avais décidé de partir à l'école secondaire à Amadi, très loin de mon village, je n'avais même pas là où habiter. Je partais comme ça sans savoir je vais habiter chez qui pour étudier secondaire, c'est quoi. C'était seulement des risques que j'avais pris. Et quand j'ai quitté la maison pour la première fois pour aller à l'école secondaire, j'avais pleuré longuement. Mais j'aimais étudier, mais je ne sais pas qu'est-ce qui me poussait à pleurer. Je dis, je pars où? Je laisse mes parents, je mange ici bien. On a tellement parlé de Amadi, quand tu vas partir là-bas, tu vas mourir dans l'eau, il y a la rivière là-bas. J'ai dit, comment est-ce que je veux vivre là alors, comme je pars maintenant? J'ai dit seulement non, je vais seulement essayer. Je vais voir ce qui va se passer. Voilà comment je m'étais engagée pour faire. Je pense que beaucoup, c'est les mains de Dieu qui m'a conduit pour pouvoir.
Et donc, c'est un appel du Seigneur. Comme on dit, les voix du Seigneur sont insondables. Mmh. Et alors, comment les parents ont réagi lorsque vous avez opté pour la vie religieuse? Ils ont regretté, ils se sont dit, oh, ben, on n'aura pas des petits-enfants. Ou quelle était leur réaction?
Bon, les parents n'avaient même pas regretté. Parce qu'à ce moment-là, aucun de leurs fils n'avait donné naissance à un petit-fils pour eux. J'avais décidé comme ça pour partir. Ils n'avaient pas regretté. Papa avait dit tout simplement, tu peux essayer. Si c'est ta vocation, tu vas continuer. Si ce n'est pas ta vocation aussi, tu reviens, tu restes avec nous ici à la maison. Sauf maman qui avait un peu une imagination là, que je pouvais me marier. Parce que à chaque fois que je partais à congé, elle me disait toujours, ben toi, tu n'aimes pas beaucoup le travail. Tu ne travailles pas convenablement. Et demain, tu vas terminer les études, et le mari va te présenter, voilà, ma femme qui vient de terminer les études, je vais l'épouser. Qu'est-ce que tu vas faire dans la maison de cet homme-là? Ah, tu dois apprendre à travailler. Je disais seulement à moi-même, tu sais que je vais me marier. Et après, quand j'avais commencé la formation, notre supérieure était partie à la maison, elle m'avait amené. Et pour demander maintenant à mon petit frère qui devrait recevoir la dot que le mari pouvait donner s'il s'agissait de se marier, la sœur supérieure est partie dire à mon frère, voilà, ta sœur a accepté la vie religieuse. Écris une lettre pour témoigner que tu ne vas plus demander la dot de mari pour ta sœur parce qu'elle a choisi une autre voie. Et mon frère a écrit cette lettre-là pour dire que non, à partir d'aujourd'hui, elle ne nous appartient plus. Elle va faire le service de Dieu.
À titre de rappel, en 1992, vous entrez dans la congrégation des Augustines de Dungu et de Rouma. En 2000, vous prononcez vos vœux perpétuels, ce qui signifie que vous ne quitterez jamais l'Église catholique romaine. En 2003, vous arrivez en mission à Dungu et vous devenez la cofondatrice de l'association Mama Bungisa, qui prendra plus tard le nom de Centre pour la réintégration et le développement. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce centre et qu'est-ce que vous faisiez concrètement?
À 2003, j'encadrais les femmes qui n'avaient pas eu la chance d'étudier. J'avais trouvé qu'elles devraient encore faire autre chose à part les études secondaires. Elles devraient apprendre un métier pour les rendre utiles dans la société. Elles devraient aussi apprendre à lire et à écrire pour pouvoir se défendre et connaître ce qu'elles peuvent enseigner à leurs enfants. Parce qu'elles ont une grande responsabilité, celui d'éduquer les enfants. Elles doivent connaître quelque chose, parce que s'ils ne connaissent rien, elles ne peuvent rien aussi transmettre aux enfants. C'est pour cela que je m'étais donné pour leur apprendre la coupe et couture, l'art culinaire et l'alphabétisation. Avec cette alphabétisation, elles peuvent aussi prendre parole devant les autres personnes, que ce soit devant les autres femmes ou hommes, qu'elles puissent avancer leurs idées, afin qu'on puisse ensemble bâtir notre milieu ou notre pays. C'était ça l'objectif de ma formation. Parce que j'ai toujours eu pitié des femmes, les filles. Elles n'avancent pas très loin avec leurs études. à cause des grossesses précoces, des mariages forcés et beaucoup de choses. Même si elles veulent avancer, mais en attendant qu'elles puissent continuer leurs études, il faut qu'elles puissent avoir un métier qui pourra les soutenir à être un peu autonome pour leurs besoins personnels.
Et donc, il faut dire que la situation de la femme et de la jeune fille n'est pas très aisée dans le milieu où vous évoluez.
Je peux dire oui, parce que il y a beaucoup de choses qui empêchent ces jeunes filles à avancer pour moi. Ce que je viens de vous dire.
Oui, vous venez d'énumérer beaucoup
oui.
de choses.
Et pour moi, je pensais que c'était mieux de les encadrer, comme on faisait auparavant. Parce qu'avec nos mamans, la plupart des femmes enseignantes aujourd'hui avaient évolué dans les structures des internats. C'est ça qui les avait aidées. Elles avaient des cadres là pour les encadrer, des femmes qui étaient toujours autour d'elles, avec des horaires précises. Donc, pendant cette heure, vous allez étudier, on vous surveille. Il n'y a pas moyen d'y aller. Vous mangez bien. Vous rentrez à l'école, vous trouvez à manger pour empêcher à ce que vous puissiez tomber pour un morceau de pain ou bien autre chose. C'est ces structures-là qui avaient aidé plusieurs femmes avant notre génération que je vois aujourd'hui, qui avaient aidé. Et moi, je me dis toujours, si ces structures revenaient, ces filles-là que je trouve aujourd'hui qu'elles sont un peu des plus vulnérables du point de vue scolarisation, on peut récupérer ces filles. Parce que c'est pépinière pour nous, pour le futur foyer de demain. Si on ne les aide pas, on ne peut pas espérer un beau foyer demain, à une meilleure vie future de notre nation.
Mingie, ele que invoca e avisa o tempo.
religieuse congolaise lauréate 2013 de la prestigieuse distinction Nansen du HCR, la révérende sœur Angélique Namaïka est l'invitée de Grand Témoin. Ma sœur, en 2009, vous êtes déplacée pendant un certain temps en raison de la violence de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, dans la région. Vous devriez courir d'un abri temporaire à un autre avec d'autres déplacés internes et vous vivez dans des hébergements surpeuplés. Expliquez-nous un peu cet épisode, comment vous l'avez vécu.
Premier jour, vraiment, pour moi, c'était trop dur. Premièrement, je n'aime pas des choses violentes. Je n'aime pas la guerre. Je n'aime pas les fusils. Quand j'avais attendu pour la première fois des fusils qui vraiment parlaient au-dessus de moi, ce n'était plus moi.
Des coups de feu violents.
Oui. Je ne pouvais même pas traîner les pieds. Et avec tout ce que j'écoutais des femmes victimes là, comment est-ce que ces atrocités se passaient? Je ne pouvais pas traîner les pieds aussi parce qu'ils n'épargnaient personne sur leur passage. Je devrais aussi moi-même aller me cacher. Alors j'avais tellement peur que je ne pouvais pas dormir la nuit et ni la journée aussi. La journée, il fallait pour que je puisse chercher quoi manger, faire manger le groupe qui était avec moi. Et pendant plusieurs temps, je me suis dit non, si je continue à vivre dans cette énorme peur-là, je risque d'avoir une autre chose, une autre maladie qui sera un peu grave, même à l'arrêt cardiaque. Une chanson m'est arrivée à la tête, on chante comme ça à Lingala. Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh, Salah, Lolengela, Yahweh, Salah. Ça, j'ai répété tout le temps.
Donc, en d'autres termes, on demande, on implore la grâce de Dieu, on demande à Dieu d'intervenir en sa faveur.
Oui, qu'il fasse tout ce qu'il veut de moi. Et alors, quand j'ai répété ces chants, j'ai trouvé un peu la paix intérieure. Je me trouvais déjà entre les mains du Seigneur. Que je ne suis plus seule dans ces combats, il est à côté de moi. Et c'est à partir de ces chants-là que je pouvais dormir. Et j'avais eu du courage pour sortir encore, continuer le travail que j'avais commencé auparavant, le travail d'identification des femmes qui sortaient de la main de la LRA, pour pouvoir les orienter vers les aides d'urgence. Et j'ai commencé à sortir, à travailler jusqu'à dans l'après-midi. Je rentrais encore dans la forêt. Pendant 4 mois, je faisais ce travail-là. Et après, quand je suis sorti, j'ai dit non. Ce que j'ai vécu, moi, je n'ai pas vu la LR. Moi, je n'ai pas vécu les atrocités directes comme ces filles qui ont fait avec 4 ans, 2 ans, 5 ans. Et maintenant, je dois aider ces femmes parce que leur souffrance est si grande. Je dois les approcher, je dois leur donner les formations que j'ai données depuis 2003 aux autres femmes. Elles doivent aussi bénéficier de ces formations. Alors, dans ma tête, quand je vais faire ce travail-là, ça va les aider. Au lieu qu'elles restent là, elles songent encore à la nourriture aujourd'hui, comment est-ce qu'elles vont faire pour manger. Mais quand je vais leur apprendre à préparer le pain, elles doivent mettre leur intelligence là-dedans. Je compte combien de cuillerées de sucre, de la farine, et ainsi de suite. Elle va oublier à penser sur les atrocités qu'elle avait reçues dans la brousse. Elle a une occupation maintenant.
Une occupation.
Oui, sur ça, elle va focaliser son intelligence. Alors, ça, c'était pour moi un remède pour aider ces femmes comme contribution dans leur détraumatisation. Voilà un peu ce qui était dans ma tête pour faire ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui.
Alors, ça fait près de 10 ans que vous faites ça, ma sœur. Quel sentiment on a finalement quand on fait ce genre d'action? Qu'est-ce qu'on ressent?
Pendant 10 ans, pendant quelques années, je peux dire presque 5 ans, j'ai travaillé, je voyais comme si j'ai travaillé dans le vide. Qu'il n'y avait pas de gens qui en désiraient ce que je faisais. C'est-à-dire les femmes en question que je voulais faire sortir dans cette situation là où elles étaient, elles n'aimaient pas la formation parce que ce n'était pas dans leur habitude. J'ai dû faire beaucoup de sensibilisation. J'ai dû rester dans le centre là, même avec 2 femmes ou 3 femmes, j'ai continué le travail.
Et on vous voit même à vélo parcourir des kilomètres pour ça.
Oui, toujours pour sensibiliser, pour qu'elles puissent comprendre l'importance de la formation. Et après beaucoup de temps là, presque 5 ans, les femmes ont commencé à comprendre l'importance de cette formation-là. Et après, avec l'arrivée des femmes déplacées, elles ont fait encore une grande exploit. Et les femmes se sont données plus pour la formation. C'est pour cela que nous avons ce nombre-là, plus de 2000 femmes qui ont bénéficié de cette aide-là. Quand je vois la suite comme ça, je trouve que la mission a atteint son objectif. Parce qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui préfèrent cette formation. Elles sont nombreuses, elles demandent de partout, des localités qui étaient victimes de ces atrocités. En tout cas, pour moi, je vois que ce que nous avons fait avec ces femmes a des impacts.
Donc, ça fait plus de 2000 femmes que vous avez ainsi formées. Ces femmes, comment elles réagissent elles-mêmes? Est-ce qu'elles sont contentes, à part le fait qu'elles aient la formation? Est-ce qu'elles sont réintégrées, se retrouvent quand même dans la vie, après toutes ces atrocités?
Oui, je témoigne parce que j'ai vu les résultats. Ces femmes sont vraiment intégrées dans la société. Premièrement, il y a des femmes, comme j'avais dit, elles ont vu leurs enfants, grands-enfants, rentrer avec des bras apités. À l'âge de 18 ans, c'est un traumatisme aussi pour elles. Et l'autre qui revient, l'autre enfant était déjà mort le deuxième jour. Et tu vois une femme qui dit non, je ne peux pas quitter le centre, parce que c'est le centre qui est pour moi comme un médicament. Si je ne suis plus là-bas, je vais continuer encore à souffrir plus. Je reste là-bas. C'est le centre-là qui m'a appris à faire le pain. Et le pain, je ne manque plus l'argent à la maison. C'est chaque jour que nous mangeons un peu bien. Quand la femme tombe malade, je soigne cette femme avec l'argent qui vient de travailler des pains. Et il y a aussi d'autres femmes qui ne pouvaient pas approcher de grandes personnalités. Avec les services traiteurs, la formation des arts culinaires, elle sert toutes les catégories de personnes à Dungu, même de grandes personnalités, des chefs des ONG internationales. Elle fait ces services-là.
Mais ma sœur, ça fait beaucoup de choses hein, à la fois que vous faites là. Qui vous finance? Où est-ce que vous trouvez les ressources?
Oui, depuis 2003 jusqu'à 2008, nous avons travaillé avec nos ressources personnelles. La pâtisserie, vente des pains, vente des habits qui viennent de la formation de coupe et couture, et vente de nourriture que nous appelons service traiteur. Il y avait aussi vente de produits du champ. Quand nous cultivons, nous vendons les autres produits. Alors, c'est ça qui nous aidait à acheter d'autres produits de formation et à payer des formateurs pour les différentes formations. Et ça nous aide aussi pour venir en aide des enfants orphelins, les bébés, pour leur lait infantile et leurs soins médicaux. Vous savez, un enfant qui n'a pas bénéficié de lait maternel est exposé à toutes sortes de maladies et à tout moment. Ils nécessitent toujours à être à l'hôpital tout le temps. Alors, c'est différents autofinancements qui nous aident à faire ces formations. Alors, à partir de 2009, nous avons commencé à faire le travail de partenariat. Premièrement, partenariat avec UNICEF à travers son partenaire grand sur terrain, COPI. Ils nous ont aidés parce qu'on travaillait déjà avec les enfants orphelins, les enfants abandonnés. Et ils ont demandé quelles sont les associations qui travaillent avec les enfants ici à Dungu. On a donné notre liste par la société civile. Et nous avons commencé à travailler avec eux. Continuer le travail que nous avons commencé au début d'identifier les affaires qui sortaient et nous avons continué avec. Alors l'argent qui venait du service de partenariat nous aidait pour aussi mettre cela dans la formation et la restauration des soins médicaux des affaires orphelins. Et nous avons fait aussi des partenariats avec Yasser en 2010 à travers leur partenaire aussi COPI, CIP et Intersource. Et là aussi, ils nous appuyaient avec le PERDIEM, on prenait aussi l'argent. Et notre autofinancement, et cet argent-là de partenariat, c'est ce qui nous a aidés à aider les femmes jusqu'à aujourd'hui.
Ma sœur, vous venez d'être désignée lauréate 2013 de la prestigieuse distinction d'enseigne du HCR. Comment vous avez ressenti cette reconnaissance internationale, pratiquement mondiale?
Pour moi, ce prix, l'annonce de ce prix, m'a été une grande surprise parce que je ne m'attendais pas à cela. Je ne savais même pas qu'il y avait un prix comme ça dans le monde pour des personnes qui distinguaient dans l'aide
aux réfugiés,
aux personnes déplacées et autres catégories. Et je ne savais pas. Et quand on m'avait dit ça, j'ai dit oui. Il y a tant de fois que j'ai pris, chaque fois que le Seigneur puisse m'aider avec des personnes. Au début, les femmes n'aimaient pas la formation. Mais maintenant, elles sont venues nombreuses. Je ne peux pas arrêter la formation. Parce que ce que j'ai demandé aussi au Seigneur, qu'il puisse donner le courage dans le cœur des femmes pour se mettre debout, pour apprendre. Maintenant, il a fait ça. Les femmes sont venues nombreuses. Maintenant qu'il me donne quelqu'un. Que les femmes ne sachent pas qu'elles n'ont pas de formateur. Et maintenant, à travers ces prix, il nous a assistés par ces personnes-là. J'ai remercié grandement la sœur. Parce qu'à chaque fois que les gens venaient à Dungu, ils passaient, les journalistes passaient, ils voyaient notre travail, ils nous questionnaient, ils me questionnaient beaucoup. Il y avait beaucoup d'étapes pour répondre aux visiteurs sur le travail qu'on faisait avec les femmes que d'autres temps. J'ai dit oui. Le Seigneur nous a compris. Ces gens qui venaient chaque fois me questionner, ils ont fait attendre dans le monde entier. Ce qu'on faisait ici, au fin fond du pays, ils ont fait attendre cela dans le monde entier. J'ai remercié grandement la sœur pour ces dons qu'il a donné aux femmes à travers moi. J'ai remercié aussi le Seigneur parce que c'est lui qui me donnait la force chaque jour, la santé et le courage et les initiatives. Si j'échoue à ça ici, je fais autre chose pour que les femmes ne sachent pas qu'elles n'ont pas quelqu'un pour les aider. Voilà ce que j'ai fait pour arriver aujourd'hui.
Nous avons dans ce studio, avec la révérende sœur Angélique Namaïka, nous avons Céline Schmidt du HCR. Bonjour Céline, pouvez-vous vous présenter aux auditeurs de Radio Okapi? Vous n'êtes pas une inconnue.
Oui, bonjour. Effectivement, je travaille au HCR ici en RDC. Je suis porte-parole du HCR.
Alors Céline, pour les auditeurs et internautes qui sont en train de nous suivre, c'est quoi le prix Nansen? Qu'est-ce qu'il représente?
Alors la distinction Nansen du HCR pour les réfugiés est un prix qui est donné chaque année depuis 1954 à une personne qui s'est distinguée par rapport à son travail et à son courage en faveur des personnes déplacées ou des personnes réfugiées. Donc chaque année, un comité indépendant qui est composé de 7 membres, dont des représentants des gouvernements de la Suède et de la Suisse, mais également du Conseil de l'Europe, le président du comité exécutif du HCR, un représentant des ONG et une invitée qui est cette année une journaliste de la BBC. Donc ce comité se réunit chaque année pour sélectionner parmi souvent une centaine de candidatures qui est la personne qui remportera le prix cette année.
Parmi une centaine de candidatures, c'est le HCR dans chaque pays qui envoie des noms, des propositions?
Pas seulement, c'est ouvert en fait. Donc on ouvre les candidatures, même aux partenaires, aux gens qui travaillent avec nous. Donc il existe un site web sur lequel en fait on peut soumettre des candidatures et des candidatures sont soumises du monde entier par des collègues effectivement du HCR sur le terrain, mais également des partenaires, des gens avec qui nous travaillons, des gens qui sont au contact de réfugiés, de personnes déplacées. Et le nom de la sœur Angélique était parmi les noms qui étaient proposés cette année et a été sélectionné par le comité pour reconnaître en fait son travail, son courage et son travail sans relâche avec très peu de moyens pour des femmes déplacées, des femmes qui ont été victimes de violences, d'atrocités. Et la sœur Angélique a mis tout ce qu'elle avait au service de ces femmes avec très peu de moyens pour les aider à reconstruire leur vie.
C'est depuis le 17 que cette annonce a été faite, le 17 septembre 2013. Et la remise se fera quand et quelles sont les implications concrètement?
Alors la remise du prix se fera le 30 septembre prochain à Genève, c'est-à-dire en début de semaine prochaine, lors d'une cérémonie officielle qui sera organisée à Genève. Et c'est le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Monsieur Antonio Guterres, qui remettra le prix à la sœur Angélique. Il y aura environ 150-200 invités qui seront composés également par des autorités du monde entier puisque cela coïncide avec le comité exécutif du HCR qui se réunit une fois par an. Et donc c'est dans le cadre de cette cérémonie avec des artistes aussi qui seront là que le prix sera remis à la sœur Angélique.
Et donc c'est la première Congolaise à recevoir ce prix.
Effectivement, c'est la première fois que c'est une Congolaise qui reçoit ce prix. Il y a eu déjà des personnes qui étaient dans la zone, notamment une dame burundaise il y a quelques années. Mais c'est la première fois que c'est une Congolaise. Et elle a été reconnue parce qu'en fait, elle montre qu'une personne peut faire la différence. À elle seule, avec très peu de moyens, elle a aidé plus de 2000 femmes. Et c'est ce courage et ce travail-là qui a impressionné le jury. Et également, ce que je voudrais ajouter à cela, c'est que je pense que c'est aussi un message d'espoir pour le Congo. C'est une histoire positive. C'est l'histoire d'une femme qui, avec très peu de choses, a fait la différence dans la vie de beaucoup de femmes. Et ça montre que chacun d'entre nous peut faire une petite différence et qu'il y a des histoires positives aussi au Congo.
En termes d'implication, est-ce que ça s'accompagne, par exemple, d'un financement, d'un soutien quelconque, à part la reconnaissance mondiale, qui n'est pas négligeable?
Le prix est effectivement accompagné d'un montant de 100 000 dollars américains qui sera utilisé pour un projet au bénéfice des femmes. Donc un projet qui sera mis en œuvre par le centre où travaille la sœur Angélique. Nous avons déjà discuté avec les femmes pour voir quels étaient leurs besoins et la sœur leur a demandé si un jour quelqu'un venait à nous donner de l'argent, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Et les femmes ont dit la pâtisserie ou plutôt la boulangerie nous aide beaucoup. Mais pour l'instant, elles n'ont qu'un four à pain. Donc l'idée, en fait, c'est de mettre en place une boulangerie semi-industrielle pour développer ce secteur-là qui n'existe pas à Dungu. Et très souvent, les gens ramènent le pain de Bunia quand ils partent là-bas. Donc voilà une idée, en fait, pour cet argent-là.
Révérende sœur Angélique Namaïka, nous allons lier l'utile à l'agréable pour déjà terminer cette émission. Je sais que vous aimez bien chanter, vous avez fredonné quelque chose ici. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on vous propose comme chanson pour vous faire plaisir et à toutes ces femmes qui sont en train de vous suivre de Dungu, de la RDC et de partout au monde?
Je ne sais pas si vous avez les chansons là qui cadrent avec les activités des femmes, que la femme peut faire aussi quelque chose avec les hommes. Ça peut aider parce que ces femmes ont montré le visage de développement, qu'elles sont capables aussi de mettre la main dans le développement.
Je voulais loin sa pays, mais c'est à l'aubaine à pierre chaud.
ma peine kato na kauka bate la kanga yo na bawa
melelo na kanisia mingi mama nyolo bonjour anniversaire na ngai komi pene. Invité Bakoli à Bakomera na sanga, yo putu artisana moyo salite, ye pa yo salisa yo putani na occasion e, tinde la kaka de feu à ta fololo, esengo na ka e posala.
Radio Capi, grand témoin.
Religieuse congolaise lauréate 2013 de la prestigieuse distinction Nansen du HCR, la révérende sœur Angélique Namaïka est l'invitée de Grand Témoin. L'émission va tendre à sa fin, ma sœur. Un mot pour toutes ces jeunes filles, ces femmes qui sont en train de vous suivre, ces femmes qui souffrent et qui n'ont pas de soutien.
Je vais dire ceci, qu'elles puissent avoir du courage comme ces femmes déplacées là. Malgré que la souffrance qu'elles vivaient dans les nouveaux sites, là où elles étaient, elles n'ont pas pris cela vraiment comme une considération très grande. Elles s'est laissé s'instruire pour d'autres choses. C'est ces instructions qui les a aidées aujourd'hui à devenir autonomes, certaines d'entre elles. Les autres sont encore en route. Qu'elles puissent aimer la formation. C'est la formation qui valorise la personne. Et c'est la formation aussi qui aide la personne à aider les autres personnes. Si vous n'avez rien, vous ne pouvez pas donner aux autres. Qu'elle se laisse. Moi, j'avais appris la couture dans les cours du soir, comme ces mamans qui vont au centre. Moi, j'avais appris ça au centre. J'étais à 3e secondaire. J'avais appris ces cours-là. Cela aide aujourd'hui les femmes. Je n'ai pas étudié cela à l'université, ni à l'école de couture. C'était les cours du soir. Qu'elles puissent accepter les coups. Et pour les femmes qui aident les autres femmes, qu'elles sachent se dépasser, qu'elles puissent prendre leur courage, donner leur mieux pour refaire vivre les autres personnes, qu'elles ferment leurs oreilles, parce qu'il y a beaucoup de paroles de découragement qui viennent des propres amis, des personnes éloignées, seulement pour arrêter les bonnes œuvres qu'on est en train de faire. Mais si elles font ça pour le bien-être des autres personnes, pour que les autres personnes reprennent vie, qu'elles puissent continuer leur travail. Pour ceux qui ont les moyens, qui voudraient aussi aider les femmes, qui voudraient aussi créer des associations, mais leur travail les empêche, ils peuvent aider ces femmes-là à travers les autres femmes qui sont sur le terrain. Par exemple, les femmes de Dungu, les femmes de Goma, celles qui vivent vraiment les atrocités. Ils peuvent aussi contribuer selon leurs possibilités. Ce n'est pas une obligation, selon leurs possibilités pour le bien-être de ces femmes-là.
Merci beaucoup, ma sœur. Je rappelle que je recevais la révérende sœur Angélique Namaïka, religieuse congolaise et lauréate 2013 de la prestigieuse distinction Nansen du HCR. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Céline Schmid du HCR. Dieudonné Nyangasa était à la technique. Alain Irunga à la présentation. Bonne suite des programmes sur Radio Capi.